Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Cette semaine, les Good Gone sont stylés et s'invitent dans la route de nouvelles bifurcations. Oui, je sais, ce n'est pas très clair. Mais la Biennale internationale du design de Saint-Étienne nous a donné des idées pour changer de direction en espérant qu'il n'est pas trop tard pour ça. Cette semaine, nous parlerons de design international à l'occasion de la 12e édition de la Biennale de Saint-Étienne qui se tiendra jusqu'au 31 juillet prochain. Nous avons parlé bifurcation avec Marc Chassot-Bénet, président de la Cité du Design, et de Sophie Penn du Learning Institute. Gaël nous fera visiter des prisons par l'intermédiaire des photographies de Maxence Riflet à la galerie Le Bleu du Ciel. Guillaume nous fera partager les incontournables de la salle de concert, l'épicerie moderne à Fézin. Décidément, cette salle a bien de la chance puisqu'elle est souvent évoquée dans cette émission. Nous terminerons par nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. On débute avec les deux rencontres que j'ai faites lors de la 12e Biennale internationale du design de Saint-Étienne. Je me suis rendue dans les anciens entrepôts et à la Cité du design pour découvrir les 7 expositions sur la thématique de la bifurcation. Cette année, vous avez un peu plus de temps pour vous rendre à Saint-Étienne. La Biennale fermera ses portes le 31 juillet. On en parle avec Marc Chassot-Bénet, président de la Cité du design.
Oui, bifurcation, c'est une thématique qui a été choisie avant même cette crise sanitaire majeure parce que nos designers considéraient ou constataient que les générations actuelles ont vécu toutes les crises. Crise économique, crise sociale, on l'a vu avec les Gilets jaunes qui est l'exemple émergent, mais il y en a eu d'autres. Crise environnementale, bien sûr, crise géopolitique. Et donc, il est, je crois, de manière générale acquis aujourd'hui qu'il faut procéder à des changements, qu'il faut changer de voie, qu'il faut inventer des modes de vie, des fonctionnements nouveaux pour ne pas aller dans le mur. Et finalement, cette crise sanitaire, qui elle-même a cumulé toutes les crises ou a exacerbé toutes les crises, a confirmé le choix de cette thématique.
C'est une biennale assez radicale dans son approche, dans son engagement aussi. Une nouvelle orientation peut-être pour cette biennale, on peut le dire comme ça?
Alors je ne sais pas si c'est une nouvelle orientation, parce que la Cité a toujours porté cette capacité à remettre vraiment les choses en question, un peu enfoncer les portes, mais en tout cas c'est certain qu'il y a une question générationnelle et qu'on voit notamment à travers les propositions des étudiants qu'aujourd'hui, pardon du terme, mais on n'a plus le temps de tourner autour du pot. Donc c'est vrai qu'il y a ces propositions qui sont très affirmées, très confirmées. Pour autant, la Biennale, en tout cas dans son esprit, ne donne pas de réponse toute faite. Elle propose des pistes de réflexion, elle ouvre des réflexions notamment sur notre habitat, sur nos modes de déplacement, en interrogeant véritablement et en n'ayant pas peur finalement de poser toutes les questions, et notamment encore une fois chez les étudiants.
Biennale, elle a la particularité quand même de durer 4 mois, et ça c'est un peu une nouveauté que tout le monde va apprécier dans la région, je pense.
Alors effectivement, j'espère que tout le monde va apprécier cette durée, cette nouvelle durée. Le constat, c'était que d'abord, c'est beaucoup de moyens déployés pour un mois d'exposition. C'est un travail évidemment colossal, hein, plus de 2 ans de travail pour nos équipes. Et surtout, une frustration du public de découvrir des choses à la Biennale, des expositions, de se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de propositions sur l'ensemble de la région. Et en un mois, évidemment, on n'a pas le temps de tout faire. Donc aujourd'hui, ça sera possible. On a essayé de rythmer aussi cette programmation tout au long de ces 4 mois. C'est-à-dire qu'on va pouvoir découvrir ici les expositions centrales, j'allais dire, dans nos grands équipements, ici à la Cité du Design, mais aussi dans nos musées. Et puis ensuite, tout au long de ces 4 mois, plus de 150 événements sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis il y en a même à Paris, puisque le Centre Pompidou fait deux résonances à la Biennale. Donc il y a eu toutes les raisons de programmer des séjours dans notre territoire.
Les jeunes devraient être beaucoup plus associés à la construction du futur. Et on pense que depuis les écoles de création, se préparent des changements qui pourraient concerner toutes les écoles et toutes les universités. Il y a beaucoup de pédagogie de projet dans beaucoup d'endroits, pas seulement les écoles d'art. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin si, au lieu de considérer le projet comme une espèce de petit entraînement, on le considérait vraiment comme quelque chose à l'échelle 1. Mais ça arrive plus comme par hasard dans les écoles d'ingénieurs. Dans les écoles de création, on croit toujours que c'est des idées pour rire. Alors, une question de recherche qu'on peut se poser, c'est est-ce que le design aujourd'hui, qu'on commence à appeler le design de transition, pourrait avoir une capacité à favoriser des changements de culture, de comportement, de pratique et même de conception politique de grande ampleur.
Étudiant comme un chercheur. Et ça m'a paru être extrêmement intéressant.
Et en fait, c'est un mot qu'on ne leur accorde pas. On leur dit au mieux jeunes chercheurs, mais avec condescendance s'ils sont en master. On commence à parler de chercheurs après le post-doctorat. Et en fait, on a trouvé que ce mot était très beau et très œcuménique, en quelque sorte, parce qu'il rend compte de cette curiosité, au sens très fort, qu'on démarre dans la vie avec des questions, puis qu'il y a un moment où on éteint ces questions, alors que l'énergie de recherche et la curiosité, c'est ça qui provoque le désir de savoir. On les a appelés chercheurs, on les a appelés aussi traducteurs, vigies, porte-parole, comme s'ils étaient à l'écoute en mettant leur oreille sur le sol. Et on a même pris une expression qui m'a été apportée d'ailleurs par Sylvain Bourmeau. On a pris l'expression de fixeur. Parce que j'ai écouté une émission de Sylvain Bourmeau dans la suite dans les idées où il interviewait Zrinka Sajlžak, dont on parle là-bas, une historienne des littératures médiévales et qui a été fixeuse à Sarajevo quand elle était jeune. Et elle dit un fixeur, c'est pas un traducteur, c'est plus, c'est quelqu'un qui prend soin de vous, qui sait où vous logez, qui sait quand la nuit tombe où être en sécurité, qui sait où il y a des snipers. Et comme elle est spécialiste de littérature médiévale, elle a relu toute la question des médiateurs dans la littérature médiévale comme des gens qui prennent soin des autres. Alors elle a plein d'exemples. Et nous, on s'est dit que tous nos artistes, tous nos chercheurs, tous nos créateurs, c'était des gens qui étaient des fixeurs, qui nous emmènent dans une zone d'aventure, dans une zone à haut risque. Et nous, les vieux, on n'entend pas. Poliment, ils baissent la voix pour pas nous déranger, mais ils savent très bien que le monde auquel on se prépare, nous, est fini. Et eux dessinent quelque chose d'autre que personne n'écoute vraiment. Donc on a voulu aller assez loin, même si on reste très discret dans l'architecture de l'exposition, pour dire que ce qui se trame dans le secret des écoles est très très important.
Voilà. Alors ici, nous sommes dans la Biennale du design, Biennale internationale du design. Vous êtes intervenu essentiellement donc avec des étudiants ici de l'école de design ou des designers internationaux.
Alors, on a travaillé avec des étudiants de cette école. On n'a pas ouvert l'exposition à l'international pour cette année, mais on a le projet, qui est soutenu par Thierry Mandon et par Éric Jourdan, de faire de cette exposition un principe et d'en faire une sorte d'observatoire, un conservatoire qui montrerait de 2 ans en 2 ans, dans les 10 ans à venir, comment les écoles changent et accompagnent les transitions. Et c'est pourquoi nous nous sommes inscrits dans le New European Bauhaus en disant le Bauhaus d'aujourd'hui, qu'appelle l'Europe de ses voeux, c'est un Bauhaus du vivant qui parle de la nouvelle relation entre les espèces et du nouveau placement de l'humain là-dedans. Et c'est pas une école qui s'occupe du fer et du bois ou des résines, c'est une école qui s'occupe de la vie et de la vie de la planète et de la vie sur la planète. C'est ça qui intéresse nos étudiants. Nos étudiants, ils lisent tous, scientifiques ou designers, Baptiste Morisot, Vinciane Després, Donna Haraway, Anna Singh, et c'est même surprenant comme ces auteurs ont percé des milieux qu'on croit un peu lecteurs. On a collaboré avec donc mon institut, le Learning Planet Institute, où on a vraiment des chercheurs. Vous allez trouver 8 projets qui sont vraiment des projets de recherche importants, comme cette jeune chercheure qui travaille sur le microbiote des femmes trans, un travail passionnant sur la nouvelle façon de travailler en infectiologie en travaillant sur la biographie des moustiques, etc. Beaucoup de projets qui m'intéressent passionnément et qui montrent que, donc là ce sont des étudiants internationaux pour le coup, c'est des parcours internationaux, mais on a travaillé aussi avec un immense succès avec l'ESAD du Mans, qui a son professeur Noémie Sauve, qui est à la fois notre artiste invité et qui a drainé 6 ou 7 projets de ses propres étudiants, avec l'ESAD de Reims, avec l'IRI du centre Georges Pompidou, et pour nous c'est le début d'un réseau qui doit commencer à grandir, avec Open School Art, qui est un événement monté par tous les enseignants d'informatique des écoles de création qui veulent montrer ce que le code traité comme un matériau et dans l'esthétique du logiciel libre et de l'open source peut permettre comme liberté créative pour les étudiants. Donc on a déjà un joli réseau en fait. Voilà.
Cette année, la thématique est passionnante et le continent africain est à l'honneur avec 60 de designers représentés. Je vous invite à aller faire un tour du côté de Saint-Étienne. On poursuit notre émission avec toi, Guillaume, cette semaine. Tu tenais à nous parler de l'épicerie moderne à Fessin, lieu que tu affectionnes
tout particulièrement pour sa programmation pointue. Tu vas nous parler notamment d'Andy Chauffe, je crois, et de Rodrigo Amarante.
Oui, c'est vrai que l'épicerie moderne, quand on regarde la programmation, c'est impressionnant parce qu'il y a vraiment tous les concerts qu'on voudrait faire, en fait, parce qu'après, il y a plus que ceux que tu viens de citer, il y a aussi Teenage Fan Club, un vieux groupe qui va venir à l'épicerie, et puis il y a aussi l'allemand Get Well Soon très prochainement. Mais bon, je voulais revenir sur Andy Chauffe, parce qu'Andy Chauffe, il a malheureusement pas eu de chance parce que son concert a été reporté deux fois pour cause de Covid. Et donc voilà, et donc enfin il est à l'épicerie moderne le 19 avril et c'est un artiste vraiment extraordinaire. Alors pour le décrire, ça serait peut-être entre Paul Simon et Elliott Smith, mais bon, c'est un petit peu réducteur. Récemment, j'ai lu un article de Stéphane Duchesne dans Petit Bulletin qui, lui, évoque plutôt le côté littéraire de ce qu'il écrit dans ses chansons, et il évoque Raymond Carver. Et c'est vrai que quand on écoute Andy Chauffe, voilà, c'est des petites histoires, alors qui peuvent être très personnelles, mais des fois, il décrit des personnages qui pourraient être des gens qu'on rencontre dans les bars ou des choses comme ça, dans des mondes un peu interlopes. Et c'est vraiment un artiste incroyable. Il a sorti en 2021 un cinquième album qui s'intitule Wilds. Nous, on l'a connu plutôt dans les années 2015 avec un morceau qui s'appelait The Magician, donc le magicien, et c'est vrai que c'est un magicien du son et surtout des arrangements. La dernière fois qu'il est venu jouer à Lyon, c'était au Marché Gare. D'ailleurs, le concert devait être au Marché Gare, mais vous savez que le Marché Gare est en travaux, donc c'est pour ça que c'est à l'épicerie moderne. Et au Marché Gare, lors du dernier concert, il était accompagné par deux clarinettistes et c'était vraiment incroyable de beauté sensible, voilà, assez acoustique, mais il peut jouer aussi très électrique. Donc c'est vraiment un artiste incroyable, c'est une voix qui est assez passionnante. Alors il a sorti deux nouveaux titres qui font suite à cet album de 2021, dont un qui s'intitule Satan, et on va écouter Satan.
Don't watch yourself, watch the movie. This only happens for a little while. Because Satan is waiting with Halloween candy. Best parts make you sorry. All of the worst parts make you strong. And Satan is waiting with heroin candy. Disciplined life, and at the end I'm taking my shoes off and jumping on in. One invitation, one bite-sized bar. Would you like to come swimming in a big lake of fire? One long disciplined life, and at the end I'm taking my shoes off and jumping on in. Satan is waiting
don't watch yourself, watch the movie.
On vient d'écouter Guillaume.
Donc on vient d'écouter Andy Schauf avec un morceau, Satan, qui sera donc présent le mardi 19 avril à l'Épicerie Moderne. Il ne sera pas seul parce qu'en première partie, il y aura une artiste que je n'ai jamais entendue, une artiste pop canadienne qui s'appelle Elena Deland et vraiment qui semble aussi très intéressant. Donc on ira écouter ce concert à l'Épicerie Moderne, qui est vraiment la salle en ce moment qui fait le maximum pour la musique indépendante.
Tu voulais nous parler également du concert de Rodrigo Amarante,
alors,
le 23 avril.
Rodrigo Amarante, c'est pas du tout la même région. Donc autant Andy Schauf vient du Canada, Rodrigo Amarante, comme son nom l'indique, vient du Brésil. C'est un artiste brésilien et voilà. Alors lui, c'est quelqu'un d'assez assez cool, voilà, dans ce qu'il chante, voilà, c'est très agréable. Son dernier album s'intitule, et j'ai perdu le titre, évidemment, mais je vais le retrouver tout de suite. Voilà, il s'appelle Drama. Donc voilà, alors c'est pas vraiment un drame hein, d'écouter Rodrigo Amarante, mais c'est vraiment un artiste plutôt acoustique, avec des rythmes évidemment de son pays, le Brésil, mais qui se rapproche finalement du folk aussi, du folk américain. Donc c'est quelqu'un vraiment de formidablement agréable. On va écouter un titre, on va écouter I Can't Wait. On ne peut pas attendre la venue de Rodrigo Amarante à l'Épicerie Moderne. Thank you.
On vient d'écouter Rodrigo Amarante.
Qui sera donc présent à l'épicerie moderne le samedi 23 avril à 20h30. Et c'est très peu cher, il faut aller à l'épicerie moderne, il faut se déplacer jusqu'à Fezin, qui est la salle de concert indépendante de Lyon.
Merci beaucoup Guillaume. Gaëlle, cette semaine, tu nous parles des images de Maxence Riflet sur la thématique des prisons à la galerie Le Bleu du Ciel.
Tout à fait. L'exposition « Nos prisons » de Maxence Riflet est actuellement programmée au Centre de photographie contemporaine Le Bleu du Ciel. Maxence Riflet a commencé son travail sur les prisons en 2016 avec 3 années de terrain, des enquêtes documentaires dans 7 prisons françaises, doublées d'ateliers photographiques avec des détenus, puis 3 années dédiées à un livre qui va paraître en mai prochain aux éditions Le Point du Jour. Pourquoi nos prisons au pluriel ? L'artiste a voulu photographier les espaces de détention en s'intéressant tout particulièrement à la relation des corps aux architectures pénitentiaires. Un corps et un espace. Le point de départ de ce photographe est l'expérience spatiale. Il interroge la façon d'habiter en soulignant l'espace dans lequel un prisonnier est contraint constitue la réalité de sa peine. Or, l'architecture des prisons est d'une incroyable diversité. J'ai voulu voir ce qu'il en est, photographier des prisons plutôt que la prison. Il y a autant de peines de prison qu'il y a d'architecture de centres pénitentiaires. L'éclectisme carcéral est aussi un éclectisme architectural. 2 photos exposées en champ contre champ du centre de détention de Caen confirme cette idée. L'architecte de la prison de Caen, Jean-Baptiste Arroux-Romain, publiait dès 1840 un projet de pénitencier avec un bâtiment de forme circulaire autour d'une tour centrale afin que chaque action des détenus puisse être observée. Maxence Riflet illustre la manière d'habiter, de mouvoir un corps contraint et d'être surveillé avec ces 2 photos. L'une immortalisant le point de vue du détenu et l'autre la vision quasiment panoptique du surveillant. Panoptique d'ailleurs à l'origine du système de surveillance. Surveillé et fiché, l'exposition s'ouvre sur une photo d'identité refusée d'une prisonnière à la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis en juillet 2014. Le portrait révèle la violence de l'immobilisation de la femme. On voit les mains des gardiens qui l'immobilisent. En prison, la photo des détenus n'est pas une obligation légale, mais une formalité administrative pour faire la carte de circulation, servant pour les parloirs, la bibliothèque, etc. En vis-à-vis, Maxence Riflet expose une vaste reproduction d'une illustration d'Henri Meyer, parue dans le journal illustré du 31 janvier 1875, où un prisonnier refuse également d'être photographié. Avec ces 2 images, Maxence Riflet souligne que « prisonnier » n'est pas une identité. Selon lui, il est nécessaire de photographier les détenus comme des gens ordinaires pour contrer la projection du fantasme de ce qu'ils ont transgressé. Comment photographier une cellule ? Dans la série En appui du 8 septembre 2017, une détenue est photographiée dans sa cellule à la maison d'arrêt de Rouen. Elle semble pousser aussi bien le cadre de la photo que les murs de sa cellule. La photo donne à voir la friction à cet espace spécifique à la fois approprié et inapproprié. L'architecture carcérale est la première peine. Maxence Riflet travaille sur l'analogie suivante. Comment cadrer sans enfermer, sans mettre en boîte. La série En appui affiche un corps qui tente de se déployer dans une architecture avare, rétrécie et qui canalise les mouvements. Pour faire de telles images, le photographe a instauré un climat de confiance et a travaillé 5 jours avec la détenue. Elle s'appelle Lucille S. elle est nommée sur le cartel pour sa collaboration. Un inventaire aux teintes flashy va aussi immédiatement attirer votre regard. De ludique et joyeux, il va devenir plus pesant lorsque vous apprendrez que ces 20 objets photographiés font partie du pactage arrivant donné aux détenus. L'ensemble correspond aux 4 activités identifiées des prisonniers, soit se laver, manger, laver sa cellule et dormir. Maxence Riflet expose cet inventaire dans sa série intitulée « Le nécessaire ». Les objets semblent déréalisés, car les photos ont été tirées selon la technique de fossilisation. On est proche des photos surréalistes de Raoul Ubach, qui s'abordaient artistiquement le réel. À noter, le jeudi 5 mai, un café photographique au Bleu du Ciel en présence de Bernard Bowles, cofondateur de Prison Insider. Et le vendredi 20 mai, rencontre hors les murs avec Maxence Riflet et Éric Rondepierre en partenariat avec la librairie Descours. L'exposition Nos prisons de Maxence Riflet est à voir au Bleu du Ciel jusqu'au 21 mai 2022. Plus d'informations sur lebleuduciel.net.
Merci beaucoup Gaëlle. Place au Gédéon pour terminer cette édition. Et oui, une belle tradition comme ça, on va pas se priver cette semaine. Guillaume, est-ce que tu veux commencer ?
Alors oui, moi ça sera pas un disque mais un livre, mais qui est lié à la musique. C'est un recueil en fait des textes de Pascal Boisiz. Pascal Boisiz, c'est le leader d'un groupe Mendelssohn, qui s'est sabordé, qui s'est fait harakiri dernièrement avec son dernier album qui s'intitule Le Dernier Album et qui est venu jouer à l'Opéra Underground il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y a un recueil de textes qui est sorti aux éditions Mediapop. Donc, il y a toutes les chansons, je ne sais pas si on peut appeler ça chanson, en tout cas, tous les grands textes.
Des textes poétiques.
Textes poétiques ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment à chaque fois un uppercut. Alors, ce qui est très étrange, c'est que, alors évidemment, tout le monde ne connaît pas Mendelssohn. Pascal Boisiz disait que voilà, que c'était connu par 25 personnes voilà, et qu'il était très content qu'il y ait plus de 25 personnes soir du dernier concert de Mendelssohn, mais quand on lit les textes, c'est presque une redécouverte alors qu'on connaît ces titres, en tout cas pour moi, très profondément, parce que les disques on les a écoutés peut-être des centaines de fois. Et ce recueil il est précédé d'une préface, on peut pas appeler ça une préface, mais d'un texte de 70 à peu près 70 pages où Pascal Boisiz explique un petit peu pourquoi écrire en fait, pourquoi écrire des chansons, des textes, voilà, et comment naissent les idées, comment viennent ces personnages. Il explique que souvent c'est pas forcément autobiographique, mais voilà, c'est des gens qu'il a croisés. Il essaye de se mettre dans la tête de ces gens qu'on croise tous les jours en allant au travail, et voilà, il arrive à construire des histoires. Et c'est des textes souvent assez fleuves. Alors ça s'est construit évidemment sur plus de 20 ans, plus de 25 ans de carrière, et ça se clôt par cette dernière chanson qui clôt le dernier album. Et c'est assez émouvant, de clore quelque chose. Alors évidemment, il continue de faire d'autres chansons. Avec son autre groupe qui s'appelle Bruit Noir et qui va sortir très prochainement un nouvel album. Donc Pascal Boisiz n'est pas mort, on est d'accord, mais par contre le groupe Mendelssohn, ça semble bien fini. Ils font une tournée, ils sont passés par Lyon, mais ils continuent à faire des concerts pour promouvoir ce dernier album.
Est-ce qu'on n'écouterait pas un titre?
Alors on va écouter un titre. Alors là,
du dernier album.
Ouais. Alors on va écouter Algérie. Mais alors attention, Algérie, ça dure plus de 10 minutes.
On va en écouter un extrait parce qu'on n'a pas le temps dans les coups de cœur.
C'est vraiment incroyable. Algérie, c'est un coup de poing, Et c'est un coup de poing qui fait du bien par les temps qui courent aussi.
Très bien. Eh ben, on écoutera Algérie. Merci beaucoup.
Henri est mort et grand-père bien avant lui. Et les oncles et les tantes et les grands cousins disparaissent. Les gens disparaissent et leur mémoire meurt aussi. Les gens meurent dans l'exil et leur mémoire s'exile aussi. Les gens s'exilent aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne voulais pas parler de ça. 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 Mais je ne voulais pas parler de ça. voulais pas parler de ça.
On poursuit, Gaël, avec ton coup de cœur du moment. On vient d'écouter Algérie de Mendelssohn.
Alors, mon Gédéon de la semaine commence par une devinette. Qu'ont en commun les arlequins, les sans-culottes, les bourreaux, les fous, le costume d'Obélix, la marinière et Daniel Buren?
Des boutons.
Les rayures.
Oui, effectivement.
Mon Gédéon de la semaine est Bayadère. C'est le livre « Rayures, une histoire culturelle » aux éditions du Seuil, de l'historien du Moyen-Âge, mais aussi des couleurs, des emblèmes, des bestiaires et de l'héraldique, soit Michel Pastoureau. Même si cet ouvrage a un an, la piqûre de rappel est, pour l'émission de ce jour, éloquente. Je viens de chroniquer l'exposition de nos prisons de Maxence Riflet au
Bleu
du Ciel. Or, le motif de la rayure, à la mode aujourd'hui, a longtemps été associé aux marginaux. Au Moyen-Âge, on appelait même ce motif barré le motif du diable, mais aussi aux exclus, tels que les esclaves, les prostituées et les bagnards. Galériens, prisonniers, déportés, tous avaient pour systématique obligation de revêtir des rayures pour être tout de suite visuellement reconnaissables, dépréciés et méprisés. Que de chemin parcouru dans l'histoire des rayures, depuis leur symbolique avilissante jusqu'aux bandes de 8,7 cm de Daniel Buren. Le sujet était une gageure, Michel Pastoureau a relevé le défi. Enfin, je profite de ce Gédéon pour parler une dernière fois de prisonniers. Sachez que le prix Goncourt lance une nouvelle déclinaison, le Goncourt des détenus. Le prix va inviter les détenus de 30 établissements pénitentiaires à lire les 15 ouvrages choisis pour le prix Goncourt et à voter. Le premier lauréat sera dévoilé le 15 décembre prochain.
Merci beaucoup Gaëlle. Effectivement, les rayures, je n'y avais pas pensé. Mais immédiatement, maintenant, en t'écoutant, je revois le film Oh Brother, en fait, des frères Coen, où on voit George Clooney, entre autres, se balader avec son vêtement de bagnard. Voilà. Et John Turturro, je crois, aussi, dans ce film excellent. Merci beaucoup Gaëlle pour le souvenir et le clin d'œil. Pour cette semaine, je suis en concurrence avec Guillaume. Oui, oui, une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un groupe dont j'aime l'irrévérence et la gouaille qui se produit le même jour que Rodrigo Amarante, le Brésilien qu'on a évoqué tout à l'heure à l'épicerie moderne. Il s'agit des Fatal Picards qui célèbrent leurs 20 ans avec une tournée et sortiront leur dernier album en mai prochain. Vous pourrez bouger avec eux le samedi 23 avril au Transborder avec en première partie Petite Gueule et, je vous le donne en mille, Giedrée. Elle s'appelle comme ça, c'est une chanteuse et humoriste d'origine lituanienne. Elle est à tomber par terre. Elle remplit l'Olympia quand même, hein, donc c'est quand même pas une petite perdrix de l'année. Elle est absolument incroyable. Non seulement elle est belle, mais en plus elle a des textes incroyables et elle est ahurissante. Donc ça sera le 23 avril. Et oui, le même jour, il faudra faire un choix entre Rodrigo Amarante et les Fatal Picards. J'espère que je vais remporter ce battle tout aussi revigorant. Donc effectivement, on a vraiment besoin de ça en ce moment. L'irrévérence, on se quitte en écoutant le titre des Fatal Picards, À moins que tu aies quelque chose à ajouter.
Non, je voulais dire que côté irrévérence, Guédré, vous savez que c'est la compagne d'un certain Pierre-Emmanuel Barré.
Absolument.
Qui est vraiment Barré, qu'il faut écouter tous les deux jours, juste avant les élections, qui fait une sorte de chronologie jusqu'aux élections. Et qui quand même.
Sur quelle antenne ?
Il va très fort.
Rappelez-nous.
Oh, vous l'avez sur YouTube, sur
YouTube,
Facebook,
hein.
Voilà, sur,
ouais,
son, sur compte YouTube. Et voilà, et c'est, il est assez extraordinaire. Et pendant tout le confinement, il nous avait aussi déjà régalé avec Guédré, qui était dans des situations complètement dingo.
Incroyable.
Dans leur maison confinée. Voilà.
Oui, c'est
donc
ça.
Vraiment, Guédré, c'est assez extraordinaire sur scène.
Je suis d'accord.
Voilà, et Pierre-Emmanuel est vraiment Barré.
Bon, donc je crois que j'ai remporté mon battle. Le 23 avril, je sais où je serai. Au Transborder. On se quitte en écoutant le titre des Fatal Picard que j'adore, Sucer des cailloux. Tout est dit.
Si t'es pro-israélienne, j'ai des oranges de Jaffa. Si t'es pro-palestinienne, j'ai du café de Gaza. Si t'es pro-tibétaine, j'ai du TD au plateau. Si t'es pro-américaine, j'ai même du coca zéro. Tous mes produits sont cachers, stockés dans de frigidaires. Si tu fais le ramadan, je le fais évidemment. Pour ce qui est de l'alcool, si jamais tu conduis, si jamais tu tombes enceinte, je boirai pour de promis. Et si rien n'est à ton goût, comme je t'aime plus que tout, on vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de minéraux, tout simplement merveilleux. Végétarienne, je remplacerai mes posters de foie de veau par des posters de boulgour de pommes de terre. Je suis sensible, c'est sincère, à la souffrance animale. Nos poules pondront en plein air des œufs sous péridural. Et si tu deviens végane afin d'éviter les drames, je ne porterai plus de cachemire, je n'irai plus aux soirées cuir, je n'irai plus jamais au cirque, je n'irai plus jamais au zoo. Et si tu pars en croisade pour la survie des salades, je militerai pour qu'il n'y ait plus de tueries de bébés laitues. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aime vraiment, on échangera nos cailloux. Vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires, de te couvrir d'eczéma, de tomber dans le coma, de partir comme ça c'est bête à cause d'une simple baguette. Tu vas beaucoup me manquer, je m'étais presque habitué à te regarder mourir tendrement sur le canapé. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. Nos cailloux.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr. Oh, 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 oh.